Bondé. Prêt. Rollé.
Bonjour et bienvenue à Avodé, prêt, rollé. Mon nom est Jonathan et cette semaine, notre sujet de discussion est le personnage de Donjons Dragons 5e édition que nous préférons, notre favori. Avec mes habituels collaborateurs Flamme, Ludo et Druid Jeff, nous avons discuté du pourquoi, du comment et de l'histoire de ces personnages qui ont su charmer notre cœur. Il est à noter que cet épisode est environ une heure, donc le double de nos épisodes habituels, et la raison est que nous avons pris quand même pas mal de retard avec nos épisodes depuis que nous les diffusons live sur Twitch. Veuillez noter que dès les prochains épisodes, nous allons utiliser les meilleurs segments de notre podcast que nous faisons tous les vendredis soirs dès 22h30 sur le twitch.tv/thephoenixlair, lien qui est disponible dans la description de cet épisode. Si vous désirez ne rien manquer de nos discussions, alors joignez-nous sur Twitch. Nous avons toujours un excellent moment et les blagues fusent de toutes parts. En plus, nous adorons pouvoir lire vos commentaires live. Sans plus attendre, voici notre discussion d'il y a quelques semaines. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Avodé près Rolly. Mon nom est Jonathan. Et encore ce soir, nous sommes live sur Twitch suite au plaisir qu'on a eu à faire ça la semaine dernière. Et ce sont Flamme, Ludo et Druid Jeff, nos collaborateurs réguliers, qui ont décidé de se joindre de nouveau à notre belle discussion. Ce soir, le sujet est votre personnage préféré, un que vous avez incarné vous-même. On va détailler ça au fur et à mesure au courant de la soirée. Et à la toute fin, ben, vous devrez voter pour votre personnage préféré à travers les quatre nôtres. Mais n'hésitez pas à nous parler de votre personnage préféré que vous avez incarné dans le chat. Ça va nous faire plaisir de le lire. Et à la toute fin de tout ça, pendant que vous pourrez voter, ben, on va répondre à quelques questions. Et là, tout ce que je vois, c'est Ludo avec un chien.
C'est chien!
Il paraît que Ludo s'arrange pour gagner sans même avoir répondu.
Même pas le temps de finir l'intro.
Un chien dans un stream, tu gagnes.
Ben, la gang Phoenix, c'est plus des chats.
Ouais, nous, on est une gang de chatons.
C'est vraiment des assholes des chats, je m'excuse, là.
Ben ouais, non, oh, ça va avec moi, c'est correct.
Bon, Flamme a déjà décidé qu'elle perdait, ça fait que...
Moi, je l'ai déjà dit, je suis une bitch, je suis une lazy bitch, je suis une crazy bitch, puis je suis une bitch. Je m'assume totalement. Ludo vient de perdre parce que c'est un chien, puis c'est une gang de chatons dans
le chat. Non, mais à grosseur qu'il y a, ça ressemble à un chat.
Non, mais c'est tellement cute, t'essayes pas, t'as pas besoin de dire c'est un chat, t'es cool, okay. Chien.
Bon, on a déjà perdu le contrôle sur le deuxième podcast live. Ça a mieux été la première fois.
Tu nous as perdu quand t'as dit deuxième podcast live.
Ouais, je sais. Et donc, avant de commencer cette belle discussion sur nos personnages, comment ont été vos sessions de jeux de rôle cette semaine? Et on va commencer avec Ludo.
Cette semaine, je m'attendais à ce que mes joueurs fassent des achats dans une ville. Et je m'attendais à quelque chose de bien relax, bien le fun. T'sais, on essaye de faire des parties comme on vit chez nous. Finalement, ils ont parlé à un NPC, ils sont allés dans ses pensées. Fait que la game a été complètement autre chose. Mais ça a été bien drôle. Puis le mot-clé est... Dragon jaune et dragon brun.
Effectivement, pour une poignée de pièces d'or, nous indique ça aussi dans le chat en ce moment. Finalement, on a parlé de dragon jaune brun.
Voilà. Mais ça arrive, tu sais, des games amenés un peu plus on n'a aucun contrôle, finalement.
Puis à préciser, c'est pas mal toutes les games, ça.
Toi, Flon, t'es parti cette semaine? Ben,
sincèrement, là, il est arrivé par une espèce d'alignement de constellations que j'ai pas vraiment eu. J'ai juste eu une game cette semaine au lieu de, tu sais, mes 6 games, là. J'ai juste eu une game, puis j'ai vécu le... À quel point c'est relaxant. T'as pas besoin de créer une campagne. T'as pas besoin de regarder puis de checker les stats de tel monde, de calibrer telle chose. Puis là, t'étais censé faire l'item de magique de l'un puis de l'autre. Puis là, j'ai fait comme, wow, c'est ça que les gens normaux vivent tout le temps. Alors, ma fin de semaine a été pas mal ça. Et ensuite, mon maître du jeu m'a complètement brisé mardi dernier en faisant une espèce de campagne tellement deep et philosophique que j'ai dit je serais pas capable de faire deux sessions comme ça. Où est-ce qu'on est arrivé? Ah ouais, on est arrivé dans son monde, puis on c'est comme si on était les premières personnes qui sont arrivées vers les Warforged quand ils ont été libérés puis qui ont eu leur liberté de penser. Puis on est arrivé, on fait quoi avec ça? On peut pas comme les laisser dans la nature de même. Fait qu'on s'est mis à faire une espèce de race idéologique qui devrait avoir tous les bons aspects, puis on a communiqué toutes nos bonnes valeurs. Alors que nous, on n'est pas nécessairement des bonnes personnes dans la vie. Alors, ça a été vraiment très intéressant, mais maudit que je ne referais pas deux games comme ça. Je vais être honnête, je ne fais pas Donjon Dragon pour être philosophe.
Ouais.
Druid, toi, que ça a donné?
moi, ça a donné que j'ai écouté un match de lutte pendant ma game de Star Wars, parce que de 6h30 à 10h30, j'étais demain.
Oh non!
Un autre game a tourné les pouces, c'est à boire.
Qu'est-ce que t'attends pour sortir de ce game-là?
J'aime trop Star Wars! C'est ça mon problème!
Moi, je peux te régler ce problème-là. Écris une game, on la joue un mardi sur deux, ça va nous faire plaisir.
J'ai besoin de savoir faire les maps.
Les maps, on s'arrange ça.
Sujet la prochaine fois, comment sortir d'une game qui fit pas pour nous?
Ah, oh, c'est vrai.
Mais c'est pas que la game fit pas pour moi, c'est que le DM m'oublie.
Donc, elle fit pas pour toi.
Mic drop.
En fait, il faut pas que tu sortes de là. Juste pour qu'à chaque semaine, on puisse dire « Mais sors de cette game! »
S'il vous plaît, reste là pour nous. À chaque semaine, on peut s'insurger. Ça serait parfait.
Colin!
Nouveau SFX pour Flamme. Sors de cette game!
Sors de cette game!
C'est ça. T'sais, autant qu'il y a des games que j'ai du fun, que là, il y avait trop de choses à gérer, puis il a mis mon perso de côté pendant 8 rounds. Puis les 8 rounds ont duré 2 heures. Même peut-être plus. Fait que là, au moins, il m'a proposé de faire un NPC pour la prochaine game parce que mon perso, théoriquement, il est pas là. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis Phoenix, toi?
moi, c'était les héros d'Arylus. C'était game 71. Un plaisir à jouer. Les joueurs ont fini par mettre fin au jour d'un vieillard qui ont finalement redonné envie de vivre. Pendant qu'ils s'ostinaient, il y en a un qui est allé le backstabber. Ensuite, j'ai posé 3 énigmes et les viewers ont eu la chance de décider qui répondait aux énigmes. Ils ont été vraiment gentils. Ils ont partagé la douleur à travers tout le monde. Mais, oh mon Dieu, que ces énigmes-là ont été difficiles. Moi, d'habitude, c'est des machines à répondre aux énigmes. Pas là. Sincèrement, c'était un après l'autre, après l'autre. Je savais plus quoi faire, là. Je faisais juste la répéter dans des accents bizarres en plus. C'était weird. Et ça finit avec... un beau gros combat avec un monstre que j'avais créé. Et encore une fois, un de mes personnages a fait quelque chose que je m'attendais pas. Ben, je dis un de mes personnages, mais je devrais dire Zap. Où à chaque fois qu'il activait une cloche, il y avait un bébé dragon qui sortait. Et là, il activait les 4 cloches en même temps. Fait qu'il y a eu 4 bébés dragons qui est venu se mêler à ça. Puis j'ai pas pensé qu'un de mes joueurs sautait un plomb quand on tue un bébé dragon. Ou en fait, n'importe quel type de dragon. Fait qu'il a sauté un plomb, il a fessé sur Gesh, il a fessé sur Dagrion, la marre des poignets. Je sais pas comment ça va finir. Maintenant, il y a un de mes personnages qui sait que le groupe peut s'en aller du temple, mais pas les autres. Fait que je sais pas s'il va leur dire. Ça va être vraiment intéressant.
C'est sûr que Zab va pas nous dire tant qu'on n'a pas libéré la princesse, la déesse de la magie.
Mais est-ce que c'est la déesse de la magie qui est là?
On va le savoir plus tard.
Vous allez le savoir un jour, assurément.
Mais ce qui était le plus drôle, c'est quand on taguait quelqu'un pour répondre aux énigmes, puis on voyait sa face, c'était comme « Oh non, pourquoi mon nom est là? » Genre,
ah ouais.
Tout le monde essayait comme de disparaître, comme « Si j'y regarde pas, ils me nommeront pas, genre. »
C'est l'activité viewers-joueur pendant une session de jeu de rôle sur Twitch. Belle initiative de Ludo. Merci, je t'ai volé ça. Les gars ont trippé. Non, mais tu le sais, moi, je vole les bonnes idées du monde, mais je remets et je dis d'où je les ai pris. Fait que c'était un plaisir de faire ça. On a eu une belle semaine et demain, c'est la campagne avec les viewers. Je suis vraiment excité.
T'as vraiment d'autres choses à parler?
C'est ça. La semaine prochaine, je vais avoir 2 trucs. Ça finira plus. Fait que moi, c'est le contraire. Flamme a une semaine relax. Moi, j'ai une semaine avec 2 games à préparer. Là, je savais plus quoi faire. Puis là, en plus, je fais le switch vers Foundry. Ça finissait plus. Faites trop de donjons, ça.
Flame 2 games pour elle, c'est le quotidien normal. C'est 4 à 7.
la première question, fait qu'on va y aller étape en étape, on va rajouter une petite couche à chaque fois pour pas que, tu sais, une personne parle pendant 15 minutes, un autre. Finalement, moi, je parle pas parce qu'on a plus de temps. On va commencer avec dans quel jeu de rôle le nom de votre personnage est la classe. Okay. Et on va commencer avec Druide.
Ventru, Vampire de Masquerade.
Puis la classe.
C'est ça.
Ventru, Vampire de Masquerade, Ventru, c'est une classe.
Ouais.
Puis le nom du perso?
Il s'appelle Ventru.
Non. Non, il y avait un nom du 19e siècle, mais ça date, là. La dernière fois que j'avais joué, c'était en 2020, à mes 22 Louis. Ans, j'en ai 35, je m'en vais sur mes 36.
Bob?
Non, c'était Louis. Je pense que c'était Armand, parce que dans le temps, j'écoutais aussi, je lisais beaucoup du Anne Rice.
Ah.
Armand.
Mais c'était pas Armand le vampire, c'était il y avait un long nom, là, qui est beaucoup trop long.
On va l'appeler Armand, c'est pas grave, parce qu'un peu plus, ça s'appelait Bob.
Armand
Leventru pour Druide. Fait qu'on va en savoir plus un peu plus tard. Ludo.
Professeur Ethan Wrazinski de l'Université Mongrel, division arcanique. Artificier Eberron Donjon Dragon 5e édition.
Ah, D&D 5e. Bon choix. Très bon choix. Oui, monsieur. Ludo. Flamme.
Grande hésitation de ma part et je vais être surprise de dire que le système c'est Donjon Dragon. Étant donné que d'habitude, je ne joue pas dans Donjons Dragons.
Ah, c'est vrai.
La classe, c'est compliqué, mais on va dire Rogue Sorcerer pour faire simple. Et son nom, c'est Ellen Salka. Et comme vous le savez tous, c'est de l'elfe pour dire la danse d'oie, comme vous le savez tous.
Okay. J'ai clairement pas écrit Ellen comme il faut.
Non, c'est E, c'est avec un E, L-E-N, Talka.
On va l'appeler quand même Hélène.
Ouais, on va l'appeler Hélène.
Tout le monde m'appelle Hélène.
Fait que c'est Armand, Ethan, Hélène. Et moi, je vais aller... J'ai joué vraiment pas beaucoup de personnages et j'ai surtout joué des personnages avec des bâtons dans le cul. Fait que j'ai pas envie de choisir un de ces personnages-là. Fait que je vais choisir Irorak le barbare.
Ah ouais, on connaît
un
lui.
Un classique maintenant, un peu partout, sur plusieurs chaînes maintenant. Mm. Donjon Dragon 5e édition, lui aussi.
Chip and Dale, ta classe.
Et Chip and Dale. Barbare slash dancer.
Magic Mike,
définitivement. Dans le chat, on a aussi quelques bons petits trucs très intéressants. Description, fait qu'une description sommaire de votre personnage. On va garder le même ordre. Druide, petite description de Armand, de quoi il avait l'air, mettons. Description physique, tranquille.
Ben, il avait l'air de moi parce que c'était dans Vampire Life.
Ah.
Et c'était un homme d'affaires.
Un Italien riche.
Ouais.
Est-ce qu'il parlait comme ça un petit peu?
Non, il parlait plus avec un accent anglais.
Ah.
Donc, toi avec une cravate.
Voilà.
Et un suit. Et je l'avais acheté le suit justement pour le Vampire Live.
Oh, ok, t'étais impliqué dans ton milieu, là.
Jusqu'à moi. Ludo, à quoi ressemblait Ethan?
Un homme dans la mi-cinquantaine, cheveux grisonnants, bel habit, gants de cuir métallique, pas trop le temps pour tout ce qui est amour, relations et autres, complètement captivé par son travail, et c'était pas mal ça, ce personnage-là qui était extrêmement intéressant. Tu sais, c'est le vieux petit professeur là, avec sa mallette, là, pis tu sais, qui serait bon donner des cours, pis ouais, tu sais. J'ai un homme professeur, il est un président, c'est vraiment ça. Là. C'est super. Toi, Flamme.
Bien, moi, c'est un personnage que je joue en ce moment, qui est une barde, danseuse, artiste, personne de théâtre, à la cour de Waterdeep, qui se ramasse à Barovia dans. Curse of Strahd, la malédiction de Strahd. Oui, on en a parlé un petit peu après le podcast la semaine dernière. Comment résumer? Ben, c'est un petit peu l'inverse de ton personnage qui dit il est tout à propos du travail, il n'y a pas le temps des relations puis tout ça. Mon personnage, son travail, c'est d'établir des relations, des histoires, des liens, des trucs compliqués. Et ce qui fait que c'est compliqué, à vrai dire, de saisir c'est quoi exactement qu'elle fait dans vie et partout, si on veut. Par exemple, maintenant, et nulle part, est en Barovia. Et je vous dis, ça fait un méchant changement de décor pour elle de tomber de la cour et la haute cour de Waterdeep et de tomber dans les brumes de la Barovie.
Oui. Tu es étonné que tu n'aies pas choisi un rogue.
C'est une rogue.
C'est une barde dancer, rogue sorcerer.
Mais tu sais, c'est une barde de profession, pas de classe. C'est une barde sorcerer, mais elle, au début, j'étais censé la faire barde, mais j'ai dit, je veux la cross-class avec rogue, parce que rogue, c'est cool. Fait que je vais commencer par rogue. Finalement, j'ai fait, ah, finalement, cross-class sorcerer, parce que pourquoi y aller avec mon plan initial? De toute façon, hashtag rogue, c'est la meilleure classe.
Hirorak est un gros Goliath à la peau grise, tatou bleu, et porte qu'un pagne, et armé de sa grosse hache, et même pour les occasions spéciales, ne se promène qu'en pagne, mais ajoute un petit nœud papillon à ce moment-là. C'est pas mal tout comme description physique, hein? Un Goliath, je veux dire, à un moment donné.
Fallait qu'on fasse
une description. Ouais, parce que là, on va parler du background de votre perso. C'est là qu'on rentre dans la chair.
À l'envers?
Ben oui!
Je vais dire la description physique après.
Ben oui, c'est bien correct. Donc, background de votre personnage. Qui est Armand?
Armand, c'est un investisseur. Il est arrivé dans la ville. Il s'est promené de ville en ville. Au début, c'était un investisseur. Il allait dans un port à sport. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte que c'était plus fun d'avoir du plaisir avec les gens. Ça fait qu'il a décidé d'ouvrir des bars. Il y a un vampire qui est barman, ça aide beaucoup. Ça...
Il me semble qu'on a déjà entendu parler de ce personnage-là.
Oui.
C'est et ton préféré et quand même un personnage qui a une certaine historique derrière pour ceux qui ont écouté les podcasts précédents.
Oui, mais c'est les circonstances qui ont fait que... Parce que j'allais jouer vraiment dans deux Vampire Life. Un dans la ville de Joliette, quand j'étais au cégep. Puis après ça, quand j'ai transféré à Québec, j'ai trouvé une gang. C'est là que ça...
OK, fait que c'est Armand 2.0. Là.
Je te dirais plus Armand 1.0 que j'ai aimé.
OK, c'est bon.
Parce que justement, je m'occupais du bar, puis je faisais du social, puis c'était vraiment...
Que ça. Oh.
Que ça.
Good. Ludo, le background de Ethan?
Ethan, c'est un scientifique qui cherchait à découvrir un matériau... Qu'est-ce qu'il peut faire avec un matériau très spécial qui était capable de prendre forme avec l'électricité, qui a appelé l'alumi. Ça n'a rien à voir avec l'aluminium, hein? Et là, il était capable de se faire des armures en aluminium et des choses comme ça. Fait que, tu sais, tout était plus léger que le reste. Fait que c'est comme s'il amenait l'aluminium dans le donjon dragon, tu sais. Fait que c'était son background de genre de scientifique, créateur de nouveaux métaux qui venaient d'une pierre que le monde pensait pas que ça pouvait devenir un métaux, tu sais, fait que c'était comme, pour nous autres, c'est super banal, tu sais, mais si tu imagines ça dans cette époque-là, tu es comme, voyons donc, ça n'a aucun sens. Et il cherchait à trouver d'où provenait la magie, c'est ça. Puis il donnait des cours à des étudiants qui voulaient rien savoir de leurs cours, des magiciens enfantins habillés avec une robe noire et une petite cravate multicolore répondant à griffons de cuivre, serpentines, etc. etc.
Je vois Flamme les deux yeux comme...
Hein? Okay. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir d'où vient l'inspiration.
Ça ressemble-tu à Harry Potter, ça? Mais... Et toi, Flamme, ta description physique?
Ma description physique, c'est une personne, c'est réellement un cure-dent. C'est une personne qui est tout le temps habillée dans des habits de danse, un petit peu plus style flamenco que le style oriental, si on veut vraiment avoir une perspective. Toutes sortes d'instruments, toujours un parapluie avec elle aussi. Un parapluie très stylisé qui est aussi une arme custom. Ben oui, il faut bien réussir à intégrer les items discrètement. Rogue, baby. Et hashtag rogue. Et puis, mais...
It will become a thing.
Hein?
J'ai dit, ça va devenir une histoire, ça. Maintenant, à un moment donné, ça va être ça dans le chat. Moi, mon but, c'est qu'on voit des hashtags rogue.
Sincèrement,
chaque
moi,
fois,
ça
à chaque fois que Flamme parle,
c'est
hashtag
rogue. La game où est-ce que, mais qu'est-ce que tu connais là? Ludo, il cherche encore. C'est correct. Là, ça en prend un dans tout le podcast qui cherche. Puis sinon, je sais pas c'est quoi, si à un moment donné, tu demandes c'est quoi l'élément déclencheur, parce que peut-être un élément de mon background, j'ai pas donné qui.
Puis, vous allez parler de l'aventure que vous avez vécue. Fait que, tu sais, pourquoi ça devient votre personnage préféré? Bon. c'est aussi ça, tu sais, c'est quoi l'aventure que vous êtes en train de faire et qu'est-ce qui amène, tu sais, tous les trucs que excellent. Vous avez vécu avec ce personnage-là. Fait que je pense que c'est bon,
garde ça pour là. Sur les questions maintenant. Toi, Phoenix, à okay. quoi le background?
De Irorak ressemblait... Irorak, qui parle un peu comme ça. Il est super excité, il est vraiment content tout le temps. C'était super le fun à jouer pour ça. La raison est que... il voulait pas se battre quand il était jeune. Puis, chez les Goliaths, il se faisait toujours niaiser, qui est une race qui est vraiment compétitive. Moi, je vais pas garder cette voix-là pour le reste, ça va être très long sinon. À ce moment-là, ben il a voulu, il se faisait toujours taquiner. La seule personne qui prenait pour lui, c'est sa maman. Et mais, par exemple, quand il se fâchait, il sacrait une rince à tout le monde. T'sais? C'est le genre de gars qui dit « Non, je veux pas me battre, non, je veux pas me battre, non, je veux pas me battre. » Mais il t'en donne juste un, par exemple, quand il se tape. Puis, tu rentres chez vous, puis c'est bien correct. Le problème, c'est que un bon matin, il s'est réveillé seul. Tout le monde dans le campement est disparu. Et on sait pas pourquoi. Fait que lui pense qu'il a été laissé pour seul, qu'il a été abandonné par tout le monde, sa mère y compris. Et donc, il y a beaucoup de trust issues à travers tout ça. Comme personnage, bien sûr. Il y a une double personnalité. Ce qui fait que quand il rentre berserk, quand il rentre en rage, ben là, il s'énerve, puis là, il est excité, puis là, là, il y a de l'intonation, puis c'est comme « Ouais, t'as bien fait! » Il high-five le monde, il liche sa hache, il fait n'importe quelle maudite niaiserie, parce que il y a connaissance des deux personnalités. Donc, un sait que, tu sais, l'autre, il veut pas se battre, puis il fait tout pour... Il y en a un qui est le bully, puis l'autre qui est le bullied, mais en une personne. C'est vraiment merveilleux. J'ai eu beaucoup de plaisir à le jouer pour ça. Merci à Ludo qui m'a permis de le ramener d'ailleurs pour quelques sessions. Je parle pas beaucoup, mais c'est un. J'ai fait beaucoup, comme j'ai dit, des personnages de très sérieux, lawful good paladin, righteous et tout. Ça a été un beau changement pour moi. Il y a eu un changement avant ça, un bard aux mœurs légères, tout le classique. Là. Mais celui-là était un peu plus étoffé, puis était un peu plus fun justement avec ce côté-là. Plus émotif derrière. D'où vient votre inspiration? Donc, qu'est-ce qui vous a inspiré à créer ce personnage-là? Aussi bizarre cette inspiration peut-elle être? Parce que croyez-moi, mon inspiration est weird, hein, s'il vous plaît. Druide Armand, d'où vient Armand? Puis pendant que vous répondez, prenez votre temps parce que et moi il ne reste plus rien. Fait que je vais aller me chercher quelque chose à boire.
Bon, ben Armand, lui, il a été fait sur le coin d'une table 15 minutes avant... le début de la séance du Vampire Life, dans la discothèque du Cégep, qui avait un bar, que la discothèque fermait au moment que nous, on rentrait en scène, puis qu'on commençait. Ça fait que l'inspiration vient de la discothèque, dans le bar. C'est ça. Puis le pire, c'est que pendant là, tu sais, pour avoir du fun, puis on nous a dit, parce que moi, j'étais à ce moment-là, j'avais 20 ans, ça fait que j'étais un peu plus vieux que les gens du cégep. Ils ont dit, si tu es prête, on va te laisser le bar ouvert. Il y avait de la bière puis du vin, là, c'était pas grand-chose, mais si vous voulez, on split que kiff, puis c'est toi qui gères, mais tu dois pas vendre, j'avais des règles très strictes, pas vendre d'alcool aux mineurs, parce qu'il y a encore des jeunes mineurs au cégep, ainsi de suite. Fait que j'ai eu beaucoup de fun. Parce qu'il y avait des gens que j'interagissais pendant le Vampire Life qui n'étaient pas des vampires, qui faisaient pas partie de la gang du Vampire Life. Donc, on avait même fait des cocktails pour les joueurs sans alcool, vampires, non-vampires, ainsi de suite. Ça avait été vraiment une folie. Puis c'est vraiment le plus drôle, c'est que ça s'est fait 15 minutes dans la discothèque, puis on m'a offert le bar. toi, Ludo?
C'est dur à jouer des lives comme ça, comme vampire, genre... J'ai joué deux fois. Une fois, je jouais un NPC. Comme ça, c'était comme tout était prévu, puis c'était le fun. Mais à un moment donné, quand ils m'ont dit « OK, ça te tente de venir jouer un vrai », je m'étais fait un personnage. Quand on est allé dans un bar, ça a duré 15 minutes. La fille qu'à l'époque, je tripais dessus, elle rentrait dans le bar. Il y a quelqu'un qui m'est arrivé en faisant un genre de, tu sais, un combat roche-papier-ciseaux, là. J'ai dit « T'as gagné, mon homme? » la partie a fini. Là, genre, pour moi, 15 minutes bien investi. C'est dur, live, là. Tu sais, parce que t'es quand même pas pour parler à la flamme de ta vie, puis dire, ah, salut, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis un vampire, je m'appelle Armand. OK.
Surtout, you never know. 80 ans.
Okay. Est-ce que tu sors encore avec cette fille-là?
Non, j'ai jamais réussi à sortir avec. Tu sais, des fois.
Moi, t'aurais pas rendu par la game.
Bon, mais là, toute ma vie est scrap. Je sais plus.
T'aurais pas de raconter ce soir. T'avais lâché la fille et t'aurais fait la game. Franchement.
Je sais, je sais plus où me mettre. Bon. L'inspiration
est dure à soi.
Eh bien, moi, j'ai contrairement à d'autres personnes, j'ai aucune substance alcoolique dans le corps, en plus. Fait que, alcoolisé. Fait que, je sais pas. Je dis ça de même. Ouais, l'inspiration, en fait, bon, j'ai lu Artificier, je suis tombé en amour avec la classe, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour être cool là-dedans? Puis là, pour ça, je me suis imaginé, bon, un artificier, ça peut être un professeur. Après ça, j'ai pensé à Indiana Jones 3, le professeur avec Indiana Jones, justement, son père, dans le fond. Ah ouais! Là, je me suis dit, il faudrait que je me fasse un personnage qui fit pas dans Donjons et Dragons. Tu sais, puis j'aime beaucoup ça, me faire des personnages qui fit pas, là. Tu sais, genre de bonhomme que... Qu'est-ce que tu joues, toi, dans Donjons et Dragons? Moi, je joue un paladin, blablabla. Toi, tu vois, moi, je suis un professeur. Hein? Avoir pu, j'aurais fait professeur d'anglais. Tu sais, genre, pas bon. Plate que ça, là. C'est
un barbe.
Professeur de français, il est assez plate aussi.
Ouais, là, c'est parce que le maître du jeu et les autres joueurs, en tout cas, j'en parle pas plus. Mais, fait que là, non, mais c'est un inside joke avec les autres de cette game-là. Puis, c'est ça, là, après ça, je me suis dit, en plus, quelqu'un de vieux, frail, tu sais, le genre de personnage que, tu sais, quand tu joues dans un dragon, souvent, t'aimes ça avoir quelqu'un qui est costaud, bagarreur, puis tout. Là, je l'ai décidé de le faire peureux. Il y avait tout pour lui, tu sais. C'est ça. Ça a tombé que c'était le personnage que j'aimais le plus jouer. C'est ça. Et toi, Flam?
Hey, moi, c'est tellement une grosse recherche de plein d'affaires qui convergent que ça ne fit plus avec votre « Ah, c'est un coin de table » puis « Hey, ça a l'air cool ». Mon inspiration est un mélange des bardes dans Dragon Age où est-ce que les bardes y font venir dans des soirées en sachant que un barde sur deux est un espion ou il essaie de cribler la crédibilité de quelqu'un ou n'importe quoi comme ça. Finalement, il y a une game dans la noblesse. Mais on les invite quand même parce que sinon, c'est plate une soirée sans eux. Fait que c'est un personnage qui est dans la game. Puis en même temps, ça faisait longtemps que je voulais jouer un personnage dont ses moves, sa magie et tout ça tournent autour de la danse. Une de mes inspirations, c'est Primrose dans Octopath Traveler, qui a comme été dans une autre direction. Puis dans Octopath Traveler, sincèrement, moi, j'ai trouvé que c'est un jeu, le gameplay est fantastique. L'histoire, c'est de la merde, sauf Primrose. Et, ouais, c'est vraiment de la merde. C'est bon quand t'es dans le truc. Oh oui, on en reparlera une autre émission.
Mais qu'on finisse ce sujet-là, là, let's go. Ça va débattre.
J'ai pris les deux concepts et je suis arrivé en plus, puis j'ai fait, bon, c'est Curse of Strahd, qu'est-ce que je veux? Puis pour pouvoir jouer un côté horreur, un côté où est-ce qu'on n'est pas invincible, on est vulnérable, j'ai pris un personnage qui, quand est dans la cour de Waterdeep, est très fonctionnel. Tu la mets dans une maison hantée et soudainement, c'est une personne qui va avoir peur, c'est une personne qui est vulnérable, c'est une personne qui comprend pas ce qui se passe, c'est une personne qui prend les mauvaises décisions parce qu'il n'y a pas les bons réflexes. Et ça, donc, j'ai été, qu'est-ce qu'on veut? Ben, je trouve que ça prend un personnage dans ce genre de game-là qui est le personnage vulnérable. J'ai été pris ces morceaux-là ensemble et je les ai mis. Et sinon, pour avoir une raison d'être là, et mon personnage a quand même une raison, c'est qu'elle est à la recherche de sa sœur jumelle. Puis elle est l'équivalent quasiment...
C'est le oui, meilleur, c'est vrai.
Mais au lieu de triper sa noblesse, elle tripe sur les bad boys. Et dans Waterdeep, les bad boys, c'est des créatures surnaturelles des fois. Et elle s'est fait dire qu'il y avait le plus grand des bad boys en Barovie. Et en tout cas, du peu que je connaisse, la seule chose qui est arrivée, c'est qu'il y a une dispute entre elle et moi. Et éventuellement, j'ai compris qu'elle est allée à une place et n'est jamais revenue. Et mon personnage y est allé, est tombé, en tout cas, no spoilers, mais est pogné là-bas. Et, mais elle aurait su qu'elle resterait pognée là-bas puis qu'elle vivrait tout ce qu'elle vit, elle l'aurait quand même fait parce que c'est sa sœur jumelle, c'est son sang, c'est toute sa vie. Elle a tout laissé derrière pour s'assurer, retrouver sa sœur. Donc, c'est ça l'inspiration, c'est ça le concept. J'ai été prendre plusieurs éléments. Donc, ça, j'ai été prendre la dancer, le côté de la cour, puis le côté une personne qui est vraiment vulnérable, qui ne fit pas pour ajouter à l'effet, pour donner du goût à Curse of Strahd. Phoenix, Toi, quelle est ton inspiration de ton pagne et de ton nœud papillon?
Ben, le pagne, j'avais juste envie d'être en pagne. Les vêtements, c'est
lourd.
C'est surfait.
C'est lourd. Ouais, c'est surfait. Tout le monde porte des vêtements dans Donjon de Règle. Non. Je suis juste allé, sincèrement, je voulais pas. Je joue pas beaucoup de joueurs, fait que de personnages. Je voulais quelque chose qui était pas stéréotype et stéréotype en même temps. Fait que je me suis dit, ah, double personnalité, ça fait parfait. Et j'étais en train d'écouter Brooklyn Nine-Nine.
Ah oui.
Et le capitaine, toujours le même ton de voix. Et, tu sais, des fois, il dit, c'est la meilleure journée de ma vie. Puis des fois, il dit, j'ai jamais été aussi fâché. Et c'est justement ça qui me faisait tellement rire. Et c'est comme ça qu'est né Irorak, la personnalité. Et j'essaie toujours de donner un hook à mon maître de jeu. À titre de maître de jeu, je suis quelqu'un qui aime aller chercher dans les backgrounds des joueurs et de spinner leurs histoires, peu importe ce qu'ils m'ont écrit. Je l'ai fait pas mal dans les héros d'Arulus. Mais avec Irorak, j'ai laissé le gros hook en disant à mon maître de jeu, regarde, ils sont tous disparus dans la nuit. Moi, je considère qu'ils m'ont abandonné. Mais, it's all yours. You do what you want. Ils peuvent avoir été enlevés par des extraterrestres, ça tente. Ils peuvent avoir décidé de m'abandonner. Ils peuvent avoir, je peux avoir, moi, disparu. Puis je le sais pas. T'in, on peut être dans deux réalités alternatives. Là. Who knows? All yours to play with. Puis moi, je me lance là-dedans, puis je te laisse ça. Fait que c'était pas un gros background, mais il y avait un bon hook qui pouvait, puis il m'a dit « Ouais, c'est bon, tu sais, j'ai une histoire pour toi, pis tout. » Que c'était intéressant pour lui à ce moment-là. Fait que voilà, Brooklyn Nine-Nine est l'inspiration principale de Irorak. Et c'est Bourriquet bon. Pour la voix. On parlait comme ça tout le temps. Donc, l'aventure que vous avez faite, comment les sessions ont fait grandir votre personnage jusqu'à présent? Puis qui ont rendu ce personnage si magique à vos yeux, Armand.
Ah ben moi, les sessions, ça se passait principalement dans le bar. J'allais faire du social, avoir du fun avec une gang de chums en même temps. Fait que, tu sais, c'était vraiment... Je m'en allais là pour faire du social. Puis, tu sais, un vampire qui est barman, qui est, théoriquement, il est le maître du bar, qui est le boss du bar, ça faisait juste que quand il y avait une bad luck avec des joueurs qui n'étaient pas des vampires, ben... On me les envoyait pour que je clear leur mémoire, que je leur donne à boire. Ça fait que j'étais comme le patcher des problèmes. C'était vraiment le fun parce qu'il y en a un, à un moment donné, à toutes les 30 minutes, il revenait parce qu'il avait vu quelque chose qui était pas correct. C'était lui, je savais, parce qu'à force de parler avec le joueur puis à saouler, que c'était quelqu'un qui chassait les vampires. C'était un humain qui chassait les vampires. C'était un hunter. Ça fait qu'en plus, je faisais exprès pour lui donner de la vraie alcool. Ça fait qu'elle finit le chose pacté bien dur. Mais c'était pissant, là. Cette soirée-là, je m'en rappelle encore, là. Je pense que le gars, il a dépensé pour 200 piastres de bière de 7h le soir à 11h.
Ah boy, 200 piastres de bière, c'est beaucoup de bière.
Hey, à la fin, il me dit, non, je veux pas le jus, je veux la vraie. Mais il en pestait, c'était rendu drôle, là. Tellement que le gars, il était en char, puis on a contacté le cégep, on a dit, ce char-là, faites-le pas remarquer, c'est un de nos joueurs, il est trop sous, on l'envoie, on le fait partir en taxi.
C'est 4 livres de Donjons Dragons ou un abonnement à D&D Beyond.
Sincèrement, 200 piastres d'alcool dans une de tes soirées où est-ce que tu fais du jeu de rôle, c'est vraiment cool game.
je ne rappellerai peut-être pas, par contre.
Ben pour te dire, cette soirée-là, ça a été la meilleure soirée du cégep pendant plusieurs années. Même en comptant les bars, les parties dans le bar. Mais tu sais, j'avais l'entre-gens, j'adore parler aux gens, ça fait que... Mais ouais, moi je m'en rappelle encore comme hier.
T'as combien de figurines, Ludo, de 100 piastres? À vue de nez, attends.
Généralement, c'est 10 piastres de figurines, ça fait 20 figurines.
Ben, ça dépend lesquels jeux qu'on parle, quelle grosseur de figurine.
Moi, je chansonne même, l'autre. Ouais, c'est à peu près 10 piastres par figurine, fait que grosso modo 20.
Ouais,
c'est ça. Pourquoi tu me poses ta question-là?
Il est dans le gauge. Puis toi, Ludo.
Ah ouais, en vrai, Phoenix, tu devrais savoir ça.
Mais, deux terrains Dwarven Forge. Ah, Seigneur. C'est ça. Ouais. C'est quoi ce sujet?
Ton personnage préféré, l'aventure. Les aventures qu'il a vécues jusqu'à présent, Ethan? Ou...
Et comment il a évolué à travers ses aventures?
Écoute, ça a été bien drôle parce que, bon, malgré tout, il était capable de se défendre. Il était pissou, ça l'a beaucoup aidé à survivre. Et, bon, il a voulu tuer une sorcière, puis des affaires de même. Là. Il a même eu un T-Rex, ça m'a amené, tu sais, des games de fou. Et, tu sais, j'imagine pas un professeur contre un T-Rex, mais c'est produit. Et c'est ça ce qui a été plus peu marquant, je dirais, ou drôle, c'est que, tu sais, des fois, quand je me crée un personnage, je vais loin. Puis là, lui, j'avais décidé que il était asexuel. Et le maître du jeu a décidé de me présenter une belle pitoune pour me tirer à un endroit, genre. Et super langoureuse qui arrive avec de l'alcool en disant « Si vous voulez me suivre. » Puis mon personnage qui répond « Un lait chaud, s'il vous plaît, merci. » Je continue sa conversation avec les autres. Là, même le maître du jeu était comme « Ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qui... » Je dis « Non, mon personnage, ça l'intéresse pas du tout ce que tu arrêtes de proposer. » Fait que c'était incroyable. Ouais, ben c'est ça, ben tu sais, je veux dire, c'est le fun parce que ça l'a amené jusqu'au développement, tu sais, de plus profond de ce personnage-là, dans le fond. J'ai trouvé ça extraordinaire. Puis en même temps, j'ai comme montré un peu, si on veut, au maître du jeu et aux autres joueurs, que il existe autre chose que juste des mâles hétéros qui courent après tout qui bouge. Bon. T'as flamme.
Pour le disclaimer, j'étais asexuel. Fait que je trouve ça très drôle.
Ah, c'est
deuxième chose.
Excellent à jouer.
Hein?
C'est excellent à jouer.
Intéressant à jouer. Puis, ouais. Souvent, les personnes vont confondre asexuel et aromantique. Donc, il y a plein de choses de ce côté-là. Et j'ai eu des, en prenant des personnages qui étaient asexuels, j'ai eu des scènes très, très comiques. Où est-ce que je finis la soirée avec un magnifique homme puis qui est joué par un autre joueur, que lui, c'est la personne qu'à chaque fois, ça devient torride et tout ça. Et on a passé la nuit à se tenir la main, puis lui, le lendemain, il est comme, j'ai perdu la magie et tout ça. Puis mon personnage appelle ses amis de filles comme, oh, on s'est tenu la main toute la nuit!
C'était merveilleux!
Merveilleux! Ça a donné des scènes très, très drôles. Fait que je ferai des trucs comiques d'asexuels un autre jour. moi, comment mon personnage évolue, c'est intéressant, parce que avec le nombre de saisons qu'on a eu, qui est à peu près une dizaine, j'ai eu le temps d'un petit peu faire le revenir, de faire un cercle en quelque part, de boucler la boucle avec mon personnage. Non pas que tout est fini, mais elle revient à qu'est-ce qu'elle était. Et le point, c'est que quand elle était à Waterdeep, elle faisait de la job sale, on va dire, de la job en même temps, comme c'était boucleur, c'était beaucoup de manipulation, c'était beaucoup d'espionnage, de vol, de inter-manipulation, de conspiration, tout ça. Mais elle travaillait pour quelqu'un qui avait la conviction que c'était une bonne personne, qu'on allait arrêter les personnes qui avaient pas d'allure. Et en arrivant dans Barovie puis en vivant tout, qu'est-ce qui est arrivé et à quel point c'est terrible dans Curse of Strahd, tout le monde est crackpot, tout le monde a été evil. Alors quand elle est arrivée puis elle a vu une personne qui était une bonne personne, qui avait pas nécessairement l'attitude de Waterdeep, la noblesse qui était là, mais qui était prête à mourir pour faire les bonnes choses. Mon personnage a fait, elle s'est mis à genoux puis a dit, je te suis fidèle, je te suis loyal, je veux travailler pour toi. Donc, en quelque part, ça boucle l'élément parce qu'elle est revenue, elle était complètement déstabilisée pendant tout ce temps-là, puis là, c'est comme si elle a trouvé un petit peu sa place, ce qu'elle croit, c'est on n'y arrive jamais nulle part tout seul et il faut te mettre derrière une personne qui a un idéal puis il faut travailler là-dessus. Donc, c'est un petit peu comme ça évolue mon personnage et j'ai vraiment hâte de voir la suite maintenant qu'elle a fait un serment de loyauté ou qu'elle a prêté sa vie à une personne. Dans Curse of Strahd, j'ai hâte de voir...
Quelqu'un de mort.
Bon, mais mon personnage a fait tant qu'à mourir aussi bien mourir pour une bonne
pas du tout, pour être l'autre qui va être torturé et turn evil, en tout cas IDM de Curse of Strahd.
Écoute, mon maître du jeu m'a déjà fait jouer ma sœur jumelle qui rentrait dans le party puis qui a screwé tout le monde maintenant se retourne vers moi puis me regarde croche puis je dis mais moi je voulais pas vous trahir.
C'est la faute de lui.
C'est pas de ma faute, c'est le maître du jeu!
Toujours l'affaire du, la faute du mal-jeu.
Pour ruiner mes plans.
Donc, j'ai dit, je ne joue pas souvent, et c'est vrai aussi pour Irorak, qui a dû faire 7 sessions au total, dont 2 avec On Start ça. Ça fait pas beaucoup. Il n'a pas monté de niveau une seule fois. C'est un peu le problème. Je suis le Forever DM de mon groupe parce que on part des campagnes, on joue entre 3 et 7 sessions d'habitude. On est au prochain. Fait que les héros d'Arylus soient rendus à 71, c'est un putain de miracle. Et j'ai aucune idée comment on a fait pour faire ça. Mais félicitations aux joueurs de m'endurer encore.
Twitch
a aidé. Twitch a aidé et on joue par Roll20 depuis le début, ça aide aussi parce que avant Twitch, il y a quand même un an complet de jeu. Donc, il n'y avait pas grand-chose qui s'était produit avec le personnage. Il trustait qu'un seul des joueurs et c'était un peu comme t'sais, on y va-tu ou on y va pas? Puis moi, je veux juste retourner dans ma ville. Puis t'sais, à chaque fois, là, il me disait non, on va les aider, on va continuer. Puis là, j'étais comme oh, okay. Toujours triste, c'est toujours faut que je continue, ça me tente pas. Il voulait juste retourner dans sa petite gang puis avec dans sa petite tanière. Puis c'était lié d'amitié d'une seule personne, c'est quelqu'un qui l'a retrouvé quand lui s'est retrouvé seul, inconscient, en pagne. Il y a une personne qui l'a trouvé, puis c'est lui qui était le personnage de Zap en fait. Fait qu'on était lié d'amitié et tranquillement, c'est ça qui est dommage, lors de la dernière session. Quand je suis allé me coucher, j'avais eu une vision de 2 Irorak. Fait que tu sais, un peu là, le fait que les deux personnages, parce que mon but, c'était de merger à un moment donné, puis pas juste avoir, tu sais, toujours le Irorak super énervé en combat, puis vraiment tout faire grandir le personnage. Chose qu'on n'a jamais eu le temps de faire, malheureusement. Dernière question. Qu'est-ce qui fait que ce personnage-là est votre personnage préféré? Armand?
Ah ben moi, c'est toute l'interaction avec les gens que j'ai eu. Oui, c'est dur en live, parce que des faut que tu fasses attention aussi pour pas effrayer les autres, les gens qui sont pas dans le live. Mais t'aurais jamais pensé à ce moment-là avoir autant de fun juste à donner des boissons à des gens puis parler pendant 4-5 heures à toutes les semaines pour le trip de le faire. Là.
Cette phrase-là de donner des boissons à des gens et les rendre sous, ça pourrait vraiment mal sortir si on fait juste skipper ce bout-là. Je sais.
Donc, on clip.
Et on a beaucoup de clips à skipper.
Mais c'est ça, c'était tout l'environnement qui était dans Armaz 1.0, où j'avais vraiment l'impression d'avoir la liberté de jouer qu'est-ce que j'avais le goût de jouer, qui était pas Jean-François Parent, mais un personnage qui était, même si c'était dans la vraie vie. Mais c'est ça, c'était tout ce melting pot-là d'un gars de 20 ans qui sait pas trop quoi faire dans sa vie, puis qu'il s'est trouvé il avait déjà une passion pour les jeux de rôle, puis on l'a invité à faire quelque chose, puis il a embarqué.
Qu'est-ce qui fait que Ethan est le personnage préféré de Ludo?
Ben, j'étais content de jouer un personnage que t'as pas l'impression qu'il se trouverait dans une partie de Donjons Dragons. Puis tu sais, il fitait vraiment pas avec les autres, dans le sens que les autres étaient tellement personnage typique d'Orange Dragon, c'est le sorcier avec son imp, le genre de paladin maudit, tu sais, toutes les genres de personnages typiques d'Orange Dragon, puis moi, tu sais, professeur avec sa mallette, tu sais. J'avais vraiment trouvé ça, c'était ce qui fait que ce personnage-là, je l'ai autant aimé. Je sais pas pourquoi, puis j'avais donné un défaut. Personne, je donne des défauts à tous mes personnages. Parce que je trouve aussi que c'est ce qui les rend plus attachants. C'est ce qui fait que j'ai plus le goût des joueurs. Puis avant, j'étais pas mal plus gros bourrin, là, puis laisse pas les défauts, puis on rentre dans le tas, puis mon personnage est parfait, là. Depuis que j'ai commencé à mettre des défauts à mes personnages, plus que j'ai ça plus vivant, me semble. C'est ce qui fait que j'ai, tu sais, évidemment, il y a aussi l'effet que la mission, puis la quête, puis l'aventure que j'ai joué est extraordinaire. Ça aide beaucoup à avoir aimé ce personnage-là. Mais, et que c'est une classe que j'adore. L'artificier. C'est toutes des raisons qui font que j'ai adoré cette classe-là. Mais je pense que c'est l'interaction que j'ai eue avec les autres, ça a tellement été plaisant que m'a amené, on a appelé notre gang. T'sais, souvent, on aime ça trouver un nom de groupe à notre team. C'était le professeur et les étranges. Parce que les autres étaient comme tous des bonhommes un peu particuliers. Puis moi, j'avais l'air le plus normal. Je trouvais que c'était un type de groupe tellement accrocheur en plus, là. On aurait pu faire une série là-dessus, là, le professeur et les étranges. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je l'ai fait. Puis, comme ça, juste un petit side aside demain, ta game. Je crois que j'ai un personnage qui risque de
déplacer.
Il va peut-être tomber mon deuxième. Là. Je l'ai bien préparé, celui-là.
Ben, j'ai bien hâte de voir ça. Flamme,
qu'est-ce qui fait que Hélène
est le personnage préféré de Flamme?
Hélène Salka, ben déjà, il y a beaucoup de travail derrière. Il y a le fait qu'elle s'inscrit dans une espèce d'effort de participer à la partie et d'aider à la construire depuis le siège de joie. Donc, je ne fais pas juste être, consommatrice de la partie. J'essaie d'apporter des éléments à ce niveau-là. Ça me donne aussi certains challenges. Qu'est-ce qui est préféré? Ben, il y a toute la perspective de massage jumelle, qui est un concept que je voulais essayer, quelqu'un qui est important pour moi. Et probablement que c'est tous les éléments que j'ai placés, mon maître de jeu les a repris. Et c'est la première fois depuis quelques temps que je peux vraiment jouer le background que j'ai monté. J'ai même pu jouer ma sœur jumelle, qui est loin d'être aussi gentille que mon personnage. Et pourtant, tous les joueurs... ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est ça, la sœur jumelle. Tous les personnages ont fini par faire « Je pense qu'on aimait mieux ta sœur. Elle a beau nous avoir backstabé. » Puis bon, mon personnage, c'est ça, est vraiment, je l'ai construit en interaction avec les autres. J'ai réalisé que c'est une poule mouillée. J'ai réalisé que c'était, peu importe que ce que les, quand on prend les personnes en défaut, elle va pas chercher à comprendre ce qui s'est passé. Elle va leur envoyer le pire regard de comme, mais qu'est-ce que tu fais? Des regards insultés, des regards comme de dédain. Donc, je m'amuse beaucoup à travers ce personnage-là, dans son maniérisme, dans son histoire et tout ça. Et je dirais que c'est une espèce de tout à ce niveau-là. C'est l'apport que je suis capable de faire par rapport à ce personnage-là dans la partie qui fait que c'est mon personnage préféré. L'autre raison, c'est parce que c'est ma game en cours. Mes games en cours sont tout le temps mes préférés.
C'est bon. Ben, je vais reprendre un peu le truc de Flamme. Pour commencer, c'est la dernière game que j'ai jouée, c'est le dernier personnage, fait qu'il est encore très frais dans ma mémoire. J'ai des personnages que je vais dire mythiques, des legacy characters là, que j'ai joués il y a très 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 longtemps, qui ont vraiment marqué mon imaginaire. Mais le fait que j'ai évolué beaucoup à travers, justement, streamer les sessions sur Twitch, écouter des podcasts, découvrir d'autres tables de jeu, jouer avec d'autres gens, a amené Irorak à un stade où il y avait sa propre voix, ses propres voix, un background avec, sans nécessairement être un c'était le fameux classique, j'ai perdu toute ma famille, mais tu sais, là je veux vengeance, quoi que ce soit. Lui, il se sent abandonné, tu sais. Il a des trust issues, mais il veut pas vengeance. C'est un barbare, mais il veut pas se battre. Je veux dire, il y avait une certaine différence face à des personnages plus typiques. Mais en même temps, il était tout le bon côté du barbare que la minute qu'il mangeait une claque à la gueule, et ça y est arrivé, il s'est mis à pleurer, et il a ragé. Et il a dégommé le gars en avant de lui. Je veux dire, c'était parfait. J'avais eu énormément de plaisir à faire ça. Puis, c'est un peu pour ça que c'est devenu un personnage que j'ai vraiment apprécié jouer. Et ça donne un peu plus un comic relief aussi, tout en ayant, tu sais, un peu... Sam dans Critical Role est une bonne inspiration pour ce personnage-là aussi, avec son personnage de gobelin qui a toute une histoire derrière, même si il fait beaucoup de comic relief avec le personnage.
Je peux le dire, c'est un troll. Je peux le dire. C'est
pas juste un troll. Justement, c'est ça la beauté de ça. Il a quand même amené un beau story arc à un certain moment avec son personnage de gobelin, puis tout ce qui s'est passé avant le début des aventures. Fait que c'est un peu le même principe avec Irorak qui faisait rire bien le monde avec ses deux personnalités. Le fait que je parlais comme ça et que j'étais bien excité. Puis après ça, il y a quand même un côté plus sérieux derrière ça qui malheureusement n'a pas pu être autant exploité que j'aurais aimé.
C'est vraiment chanceux. Parce que en fait, on en a plusieurs chanceux ici. Parce que vous, quand vous arrivez avec un personnage qui sort du lot, c'est ce qui manque à vos parties. Moi, tout le monde a des choses tellement éclatées que je suis obligé de faire le personnage plate.
Personnage plate, dancer, rogue, bard, sorcerer, avec une sœur jumelle.
Maléfique.
Plate, party. Oui, mais en même temps, quand tu regardes, comparativement aux autres, t'es quasiment plate, là. Je veux dire, moi, j'ai des joueurs dans mon environnement que si jamais on fait une quête dans Ghost of St. March, ouais, on va jouer des pirates puis des corsaires, ouais. Puis là, t'en as un qui fait, moi, je vais faire le cuisinier. Moi, je vais faire le stowaway qui a pas rapport sur un bateau. Moi, je vais faire la personne richissime qui a jamais mis sur un bateau, mais un pied sur un bateau, mais qui se croit. Finalement, t'as personne qui sait naviguer puis que c'est une quête pour un bateau. Là, je suis obligé de faire, ben, moi, je vais faire la personne qui est un marin, tu sais.
Moi, je vais faire une wench.
On en a besoin.
Ah, c'est encore plus drôle parce qu'ils savent pas mal naviguer puis qu'ils l'apprennent sur le tas.
Il y avait une capitaine sur votre bateau de la marde.
Oui, j'avoue.
J'ai très bien prévu le coup.
Ben, j'avoue.
Et je suis totalement d'accord. Pour une poignée de pièces d'or, dit, c'est jamais une obligation d'avoir un personnage typique ou quelque chose qui va aider le groupe ou quoi que ce soit. Deal with it.
Ouais.
Mais en même temps, là, je veux dire, quand. Non, ouais, tu peux. Encore une fois, les règles peuvent être bendées juste assez pour que ça fonctionne pareil.
Si t'as quatre personnes qui partent dans une direction différente, ça te prend la cinquième qui prend tout le monde, puis que. Ok, on avance.
La merde. Ouais, ouais. Moi, je vais être la cinquième personne qui va foutre la merde, là. J'ai les résultats du vote.
Oh yes!
Et à 3 contre 2, Hélène l'emporte.
Ouais, mais. On va être honnête, ayant un personnage rogue, j'étais pas mal sûr de gagner.
Hashtag rogue. Donc, passons aux questions. Si vous avez des questions dans le chat, laissez-vous loose, gâtez-vous, gâtez-nous. Toujours bien intéressant d'avoir vos questions, mais j'en ai une. Ici, Cyrudus, j'en avais une trollée déjà. La première, c'est, avez-vous déjà pensé faire une campagne de style Westmarch? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'une campagne Westmarch?
C'est quoi Westmarch? Mais je sais pas c'est quoi une campagne style Westmarch.
Qu'est-ce que Westmarch?
Westmarch, on parle de la série, là?
Non, toi tu penses à Westworld.
Ouais, je pense, c'est ça, c'est exactement ça.
Une campagne Westmarch, c'est plusieurs DM, plusieurs joueurs, puis ça bouge un peu. C'est pas toujours les mêmes joueurs dans la même session, puis le DM change aussi.
Selon l'horaire.
Ah! Hey, sincèrement, je tenais patate, j'adore ça. Cool. T'as quoi la question?
Est-ce que vous avez déjà pensé à faire ça? Peut-être ouais. Maintenant, mais clairement, Flamme avant, pas vraiment, parce que ça avait pas
été. Oui, mais pire que ça, c'était avec un autre joueur, maître du jeu, joueur, puis on flippait à chaque game. Puis si on n'avait pas fini le donjon,
fait que se préparer un coffre avec ses trésors qui allait s'ouvrir dans sa prochaine game. Bon, la game se termine, vous êtes en avant du coffre avec tout le trésor qu'il y a là. Next game, j'ouvre le coffre. Char l'épée plus 3.
Ben, tu sais, on pourrait penser que c'est quasiment ça, mais en réalité, dans une game comme ça, ça devient plus le trip de pogner les meilleurs items puis pogner juste des choses intéressantes. Tu sais, le trip devient. Ouais. Comment tu vas reprendre la partie puis où est-ce que tu vas l'emmener à ce moment-là. C'est pas « Hey, je vais essayer de m'assurer que mon personnage soit fort, si c'est ça votre trip. » Ben, j'ai arrêté ce trip-là quand j'étais secondaire 4. Maintenant, je me donnais, je voulais comme autre chose.
Et veux pas pour jouer dans Westmarch comme joueur, là, chez Joueurs sans fromage, le but, c'est pas de rendre ton personnage le plus fort, c'est rendre le groupe le plus fort possible. T'es pas obligé d'avoir tout le stock cool pour toi, puis tu sais, moi, je floppe des diamants à 300 gold, je donne ça à d'autres clérics parce que je trouve que c'est quand même important d'avoir ce spell-là préparé. Mais c'est moi qui le paye dans ma poche, là. J'aurais pu dire, ben, je garde mon or pour m'acheter d'autres objets magiques, mais je floppe. J'ai ramené un bateau pour la guilde, ça m'a coûté genre 400 gold. Mais
tu joues ton personnage, dans le fond. Tu joues toi.
Hein?
Tu joues ton cash pour donner aux autres.
Tu
mourrais comme des copains. Merci, Ludo. T'étais de toute beauté. Ludo, t'en penses quoi?
J'y pensais. Peut-être que ça va arriver. Tu vois?
Qui sait?
Peut-être que je suis en train de prévoir ça. Peut-être.
Peut-être que Phoenix aussi est en train de prévoir ça.
Peut-être que ça s'en
vient. Peut-être pas avec Phoenix. Là, il a le droit d'avoir des projets avec d'autres mondes. Là. On n'est pas exclusifs. Ouais, donc, Ludo, on est un couple ouvert.
Exact. Ouais, c'est extrêmement dangereux notre affaire.
Mais pour penser à faire un Westmarch, eh ben, je pense que la campagne des viewers, la première, Aeonore, c'était un type de Westmarch où les joueurs changeaient de session en session. C'était juste une one-shot, mais ils revenaient toujours au hub, si on veut. Fait que c'est quand même intéressant à faire. Je vois que pour une poignée de pièces d'or, avait pensé à faire ça pour leur prochain charité. On en a fait un charité. On a pensé à faire ça, nous aussi, pour le prochain. Faire, tu sais, une grosse game, 4DM, des changements dans les joueurs, mais ils jouent le même personnage à travers une histoire qui se connecte de 4DM. C'est weird. Il y a du monde qui était tellement excité par les sessions qui ont eu lieu cette année que je pouvais pas leur dire « Non, l'année prochaine, ça va être différent. » Je me suis menotté moi-même. En fait, Ludo m'a menotté. Bon, on est un couple ouvert, puis Ludo me menotte. Je sais, ça sonne vraiment mal, cette histoire-là.
Non, mais... Hey! No shame, pas de jugement.
Je veux dire, you do you. Mais définitivement, il y a tellement eu une belle game avec ça. Le monde était déjà excité à la fin. Puis le monde a aimé l'idée du one-shot, je pense aussi, parce qu'ils se sont juste dit, c'est le fun parce que je peux être un personnage pendant 4 heures, puis je peux faire plusieurs games dans la journée aussi. Si je veux en faire 2, je peux en faire 2. Fait qu'il y avait bien aimé ça.
C'est ça, voilà. L'idée aussi d'amener des nouveaux joueurs. En voulant amener des nouveaux joueurs, en faisant des petits one-shots, ça permettait justement à la personne de dire, ben moi, je vais juste jouer à ça, puis je vais avoir un début puis une fin à mon histoire, puis je vais voir si j'aime ça. Côté... pour des nouveaux joueurs, je trouve que c'est intéressant les one-shots.
Ouais, c'est vrai, on avait 2-3 joueurs plus moins expérimentés, je pense, au courant de la journée, là, qui ont fait
quelques sessions. Ils se sont transformés en ours. Ils ont aimé ça.
Je comprends, moi aussi, la métamorphose du druide est toujours le fun. Donc, OK, oui, Westmarch, j'avoue que c'est toujours intéressant de faire ce genre de petits trucs-là. Une autre question. Avez-vous une règle au sujet des joueurs non présents? Qu'arrive-t-il à leur perso? Et à combien de joueurs manquants vous annulez une session? Plante? À un joueur manquant?
Je recédule.
Ah ouais? Il te manque une personne sur cédule.
Ouais, mais vous voyez, moi, mes joueurs, ils seront sûrs d'être là à chaque... Non, mais souvent, c'est des petits groupes. Je vais bénéficier de ce côté-là. Donc, quand il manque une personne, ça a un gros impact. C'est souvent des amis... C'est souvent, je vais y aller avec stratégie, c'est un couple, des colocs, des choses comme ça. Donc, je vais trouver des stratégies pour m'assurer qu'ils soient là. Puis, c'est très, très rare que ça va m'arriver, ce genre de choses-là. J'y vais, c'est du monde que je connais. Fait que je connais leur horaire, je connais leur réalité. Donc, je suis capable de prévoir ça à l'avance. Donc, c'est pas un enjeu pour moi. Puis, je veux pas qu'il manque de personnes. C'est extrêmement rare. Qui va manquer.
Ludo, je m'excuse, mais ne masterant pas de session en ce moment.
S'il en manque 3, j'annule.
Combien?
3.
3 sur 6.
Ouais. Et dans ce que je fais, je les occupe. Je dis qu'ils sont en train de faire quelque chose tout, mais généralement, mes joueurs, ils s'arrangent pour les oublier. Quand ils sont pas là, ils sont pas là. Puis quand ils ont besoin, ils font des farces. Des fois, ben, ils disent ouvertement que lui, la prochaine fois, on va le coincer, tu sais. Fait que le l'autre, quand il écoute la game, il fait comme « Ah non, j'aurais dû être là. Hein? »
Druide, qu'est-ce que tu ferais? Dans le chat, qu'est-ce que vous feriez? Mais qu'est-ce que ça, vous faites?
Moi, pour l'avoir vécu comme joueur, ça dépend des groupes. Il y a des groupes où on est 5, 6, 7 joueurs, 8 joueurs. J'ai fait une game à 10 joueurs. Souvent, ça vaut pourcentage. Je te dirais, s'il manque le quart du groupe, c'est souvent annulé. Même qu'on a dû mettre quelqu'un dehors parce que il se pointait pas, il donnait pas de nouvelles. Ça fait comme on lui a parlé une première fois, on l'a averti une deuxième fois, à un moment donné, on passe à d'autres choses. Mais c'est pas mal ça. Je pense que ça va pour qu'est-ce que je connais comme joueur, comme quand j'étais DM avant de tout lâcher. C'était plus un pourcentage. Disons que j'ai 4 joueurs, il en manque 1. C'était annulé. Mais si on était 8, ben c'était 2. Puis si on montait, ben. Puis j'ai eu des games où il s'en foutait qu'il y ait 3 joueurs, 1 joueur. Il faisait quand même la game. Ça fait.
Personnellement, ça va dépendre. Ça va dépendre de plusieurs trucs. Et donc, normalement, ma règle pour, mettons, les héros d'Arylus, c'est si j'ai 3 joueurs, je vais avoir une game. À moins qu'un joueur important du story arc soit absent. Donc, à un certain moment, on était dans le Marais Sec, qui est la région de Zap. On est avec la famille Boltwick. On est en train de parler à son père, qui est mourant. Si Zap n'est pas là, je ferai pas une game. T'sais? C'est pas logique. Mais il ne faut pas oublier aussi, on joue sur Twitch. Fait que, ça nous oblige un peu plus à le faire. Je me sens un peu plus obligé, si on veut. Et je sais aussi la vie de mes joueurs. Et à la différence de Flandre qui est capable d'organiser ça, je sais que mes joueurs, des fois, vont avoir des problèmes, ben pas des problèmes, mais des choses qui vont come up à la dernière minute de l'overtime qui n'était pas prévu, un enfant qui va être malade. Puis
ou un joueur qui est carrément malade.
Ou un joueur malade et qui ne peuvent pas jouer. Mais vous voyez, Alien, c'est la grande finale. Ça fait 7 sessions qu'on fait. C'est notre dernière game. J'ai un des 4 joueurs, on est déjà pas nombreux, qui était malade. On pouvait la faire à 3. Mais là, je trouvais que c'était niaiseux. T'sais. C'est la dernière game. OK, celle-là, on va la déplacer. T'sais. Même si, à Advike Live, on l'a annulée. Fait que j'ai pas un chiffre exact parce que ça va dépendre des autres circonstances. Mais si mes joueurs sont absents, ils tombent un peu, ils fade un peu dans le background. Souvent, je vais... si je sais qu'ils sont absents pour longtemps, ça m'est arrivé des joueurs qui étaient... Ah, excuse-moi, Joe, j'ai un bébé qui est né et donc je vais manquer quelques sessions.
Quelle raison de marde.
Ben, je le sais, si j'ai failli le sacrer en dehors du groupe. Ben non, c'est pas vrai. Mais son personnage a quitté le groupe pour une certaine période de temps. En fait, il s'est ramassé en enfer. En fait, il s'est ramassé, non.
C'est pas d'analogie pour la réalité, ça.
C'est pas ramassé en enfer, il s'est ramassé en abysse, voilà. Je me suis trompé, là. Les deux plans sont tellement similaires. Same, but different. Il y en a un autre à Mané qui m'a dit, regarde, j'ai besoin de prendre un peu de temps out de la game. Ben, ils se sont ramassés dans un truc de sorcière, puis il a osé goûter la soupe de la sorcière, puis... Les autres ont été corrects, mais lui a perdu connaissance pendant plusieurs sessions. Fait que tu sais, j'ai complètement enlevé ce personnage-là du groupe. Si c'est pour une session, quelque chose que je m'attendais pas, puis même des fois, je vais roleplayer quelques petits bouts juste pour faire que le personnage est là, mais dans les combats, il est complètement out. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre le contrôle du personnage pour la simple et unique raison que il n'y a pas de mes joueurs qui voudraient expliquer à l'autre pourquoi son personnage est mort. On sait que ça arrive des fois que les personnages meurent quand il y a quelqu'un d'absent. OK?
Surtout si on donne gâche à Méric, c'est sûr qu'il...
Ben, c'est sûr que le gars derrière, ça va être pas si pire, mais c'est sûr que gâche à Méric, ça fait un peu de la merde. Donc, pour une poignée de pièces d'or, donne la commande des joueurs absents aux joueurs présents. Notez qu'ici, ça fonctionne pour nous parce qu'on prend ça à la légère dans ma campagne, mais d'autres campagnes, ça passerait pas. Sinon, si j'ai la moitié manquante, je fais un ante-épisode quest. Ouais, ça m'est déjà arrivé aussi de faire disparaître une partie du groupe. Ou sinon, ben, j'appelle la gang de « On start tout ça » puis on arrange de quoi. Ou la gang de « Pour une poignée de pièces d'or » ou hein, on commence ouais. À connaître du monde. On va
arranger. On viendra en renfort.
Ou la gang yes. De Capitaine Yogg.
Ouais, ben, qui sait? Qui sait ce que le futur nous réserve? Diddy lui dit que c'est plutôt le contraire. Il fait comme Flamme, donc s'il y a un absent... Ça a fini là. C'est tout ou rien. Cyrudus dit, ben là, sa campagne a 3 joueurs. Fait que s'il en manque un, c'est ça. Je veux dire, à 3 joueurs, t'as pas vraiment beaucoup de jeux. Fait que je comprends. Puis c'est pour ça que j'avais un groupe pour les héros d'Arylus à 6 que je voulais pas avoir à annuler de session. Parce que je sais, t'en annules une, t'en annules deux, t'annules une campagne. Been there, done that, bought many t-shirts. Fait que je veux pas que ça l'arrive. Donc, bien, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à nos merveilleux collaborateurs, encore une fois. Ça a été du temps très précieux. Merci d'embarquer dans cette belle folie qu'est ce podcast. Je vous souhaite une bonne nuit et à la semaine prochaine.
Bye!
Bye!
Et vous, quel est votre personnage préféré? Laissez-nous savoir dans les commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir vous lire, chers auditeurs. J'aimerais remercier Flamme, Ludo et Druid d'avoir participé à cette discussion et j'aimerais aussi vous remercier de nouveau pour votre écoute. Je sais que des podcasts sur les jeux de rôle, il y en a plusieurs. Le fait que vous avez pris le temps de nous écouter nous touche énormément et ça nous aide et ça nous motive à vous faire de nouveaux épisodes et d'améliorer notre contenu à chaque semaine. N'oubliez pas que nous sommes live sur Twitch tous les vendredis soirs de 22h30 pour l'enregistrement du podcast. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et de très bonnes sessions de jeux de rôle. À lundi prochain.